Hypnose, sophrologie, shiatsu kinésiologique, microkiné. Michel Effouad répond à vos questions pour votre être dans votre émission Bien-être et vous.
Salut les amis, salut Pascal, salut Fouad.
Salut à tous.
Salut.
Et c'est encore une nouvelle émission qui arrive là.
Oui, ravi de vous retrouver.
Encore une émission passionnante avec un invité qui tient à cœur.
Moi, je ne dis plus le mot passionnant parce que j'ai une amie qui s'appelle Gazelle qui m'a dit « Tu dis tout le temps le mot passionnant dans tes émissions. »
C'est vrai. C'est parce que t'es un passionné, en fait.
Bah, ouais, mais du coup, je vais arrêter parce que la passion, c'est, il paraît que c'est la souffrance.
Ou c'est l'amour.
Ou c'est l'amour. C'est les deux,
d'ailleurs. Un peu les deux,
c'est peut-être les deux.
Ouais, bah...
Alors aujourd'hui, Michel, une émission spéciale qui me tenait à cœur.
Là, ça fait un moment qu'on essaie de la programmer, celle-là.
Oui, tout à fait. Mais il a eu du mal à venir. Notre invité, il est thérapeute et formateur belge, vosgien d'adoption, spécialisé dans les approches de santé qui font le lien entre le corps, les émotions et le psychisme. Sa pratique, elle s'est construite sur une solide formation académique en sciences physiques, santé, qu'il a ensuite orienté vers des techniques thérapeutiques, plutôt des techniques complémentaires. Tous ceux qui ont eu la chance de le croiser en sont sortis transformés, que ce soit lors de séances individuelles ou suite à des formations. Il est selon moi un passeur qui fait émerger la lumière là où la connaissance sommeillait encore en nous. Il manie mieux que quiconque certaines des grandes informations universelles qu'il transmet notamment en France, en Belgique, au Portugal et même au Brésil. D'un point de vue personnel, je le considère comme un grand frère, un référent, un modèle à certains égards. J'ai un lien particulier, une admiration même, une grande affection pour lui. Notre invité du jour, Emmanuel Corbel. Bonjour Manu.
Bonjour mon ami Foued.
Quelle présentation, hein, dis donc.
Ça me met la pression. Là.
Oh, pas du tout, pas du tout. On est ravis de te recevoir.
Tu m'émotionnes déjà.
Ah bah écoute, hein. Avec grand plaisir.
Ah bah moi je peux te dire un truc, hein, c'est que ça fait un moment qu'on voulait la programmer cette émission, que ça lui tenait vraiment à cœur. C'est pour ça que, voilà, et la présentation que tu nous fais de Manu...
Et ça me tient à cœur et surtout ça va permettre, je suis persuadé, de toucher le cœur de nos auditeurs et auditrices. Parce que Manu, s'il y a bien une personne qui a beaucoup de choses à raconter, c'est bien toi.
Mais si tu commences déjà avec le cœur, c'est extraordinaire parce que finalement, si on veut évoluer, il faut faire passer le mental dans le cœur. Et le cœur et le corps sont toujours en corrélation. Tu ne peux pas séparer les deux. Si tu écoutes bien le terme cœur et corps, il y a une même énergie. Il y a juste que dans le corps, tu as le P et le S qu'on n'entend pas. Et le P et le S permettraient peut-être de mettre le feu dans des verbes qu'on n'a pas pu exprimer, qui vont se manifester dans le corps. Donc tu vois, on part déjà dans une grande énergie.
Voilà, ça c'est fait. Belle entrée alchimique.
Voilà, j'adore toutes ces
énergies. Et oui, les mots, les informations dans les mots, c'est tout ça l'univers de Manu. Alors toi Manu, aujourd'hui on t'a invité... en tant que, je ne sais pas comment on peut dire, concepteur de la lecture biologique.
Oui, on pourrait dire ça. C'est, comme tu dis, je pensais justement à ce terme de concept, parce que finalement, c'est une façon de voir simplement la personne dans sa globalité. Et c'est basé, ce concept, c'est basé sur de la spiritualité. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est qu'est-ce qu'on est venu foutre dans cette galère, entre guillemets. Tu vois, beaucoup de choses, on peut se poser cette question.
Mais avant d'être spirituel, tu étais matériel, entre guillemets, parce que tu as comme une formation solide.
J'ai fait une formation au départ de prof de sport, tu vois, même éducateur spécialisé au départ. Et puis, en fait, prof de sport... qui te met évidemment dans la matière, dans le corps, qui te fait quelques petites blessures et qui te fait rencontrer alors évidemment des thérapeutes, et notamment l'ostéopathie. Donc après, j'ai fait de la kiné pour pouvoir faire l'ostéopathie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des cours d'ostéopathie complets.
Donc tu étais éducateur, prof de sport, tu t'es, t'as fait la formation de kiné pour ensuite devenir ostéopathe.
Oui, parce qu'après la première année de kiné, je me dis ça va me... Ça ne va pas me suffire, donc j'ai continué pour faire ostéopathie. Et puis après, j'ai eu des enfants qui ont eu des petites pathologies. Et là, j'ai découvert la microkiné grâce à notre ami commun, Patrice Bénini, qui est devenu un très bon ami.
Patrice qu'on embrasse.
Voilà, et qui est devenu le parrain de ma fille. Et il y a des choses qui m'ont fait rentrer finalement dans le monde de l'information grâce à la microkiné.
Oui, tu nous as souvent, tu utilises cet exemple en formation, tu parlais de l'eczéma notamment.
C'est l'eczéma qui m'ont fait rentrer dans les deux énergies, dans ces deux patients qui étaient au départ la microkiné, et puis que j'ai découvert par la suite, j'ai complémentarisé et puis fait ma propre méthode, mon propre concept.
Donc finalement, une pathologie de ton enfant t'a poussé à les comprendre?
m'a éveillé.
T'as éveillé.
Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que j'utilise comme avec mes patients. J'ai toujours, qu'est-ce qu'on fait avec nos patients ? Simplement, on les éveille parce qu'ils sont un peu endormis sur certaines choses.
Donc, Manu, t'es en train de nous dire que thérapeute, nous ne guérissons pas nos patients. On est d'accord, vous qui nous écoutez.
Ah bah ça, on est bien d'accord. Hein.
Personne ne vous guérit, si ce n'est vous-même, éventuellement. Ou pas.
Ou pas, il y a toujours le ou pas.
Il y a toujours le ou pas. Alors avec Manu, tu verras, il y a toujours le ou pas. Mais c'est ouais. Tellement...
Mais ça, c'est le ou pas, c'est ce qui est au septième jour de la création, c'est quelque part le libre arbitre. Tu sais, quand Dieu se retira, il donna le libre arbitre et seul l'homme a été suffisamment fou pour pouvoir le prendre. Et alors, le ou pas, c'est le libre arbitre, c'est le choix. Et c'est la première chose qu'on fait dans notre vie, c'est de venir s'incarner. C'est le premier choix qu'on a fait. C'est nous qui décidons de s'incarner ou pas. Le ou pas. Et si on vient s'incarner, pour moi, tu vois, c'est pour ça que pour moi la spiritualité est très importante. C'est simplement pour essayer de se découvrir, faire des expériences et essayer d'évoluer. Point. Et c'est un choix qu'on fait.
Alors pour les auditeurs qui pourraient dire, mais pas du tout, on est un corps, on n'a pas choisi, on est là, puis on meurt, et puis voilà.
Puis ça s'arrête là.
Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? Peut-être. Il pourrait y avoir la possibilité que nous soyons une âme au-delà d'un corps physique qui viendrait s'incarner sur Terre pour vivre de l'expérience ?
Je pense. Parce qu'on sait très bien que finalement, quand le corps physique disparaît, le monde de l'information qui soutient ce corps physique, il ne disparaît pas.
Et donc c'est pour ça que, fort de ton expérience dans la matérialité, dans le physique, lorsque ton enfant fait de l'eczéma et que tu étais un peu limité dans ton approche, tu as découvert la microkiné, mais tu n'as pas juste emmené ton enfant faire des soins de microkiné, tu as fait bien plus que ça.
Au départ, la microkiné m'a amené dans le monde de l'information, ce qui m'a passionné, puisque j'étais aussi enseignant en microkiné.
Voilà, donc tu t'es formé en microkiné et tu es aussi devenu enseignant en microkiné.
C'est ça. Et puis par la suite, ça m'a permis de comprendre déjà avec Patrice que lui, il a donné des informations qui correspondaient à des choses qu'on a vécues dans la vie intra-utérine, que mon enfant a vécu dans la vie intra-utérine de sa maman. Et là, j'ai été surpris.
Donc tu parles de Patrice Bénigny et donc de Daniel Grosjean qui ont monté autrefois la microkinésithérapie. Ils étaient tous les deux kinés-ostéos. Mmh. Et Daniel Grosjean, avec son ouverture de théologien, parce qu'il y avait aussi une casquette de théologien, et Patrice, avec une main incroyable, extraordinaire,
un cœur extraordinaire,
on commençait à rentrer dans ses mémoires, dans les mémoires, notamment de ce qui se passe dans la vie intra-utérine.
Les mémoires, tu peux voir que derrière une mémoire, c'est une information, en fait, simplement.
Une mémoire est une information.
L'information, finalement, c'est quoi ? C'est pouvoir, c'est quelque chose, quand on entend information, c'est que la forme est à l'intérieur. Tu vois, donc c'est déjà un support qui va permettre de se matérialiser sur quelque chose.
C'est ce qui va permettre à un support matériel de prendre forme.
C'est une information qui permet à un support matériel de se concrétiser d'une certaine façon.
C'est ce qui se passe lorsque je dessine sur ma tablette. J'ai une intention et je crée une forme qui ensuite je peux la faire émerger avec une imprimante 3D par exemple.
Si.
Ouais. Ou c'est quelque chose qui passe par mon cerveau. Et qui ensuite peut impacter la forme de mes organes, de mes cellules.
Les pensées sont créatrices.
Les pensées sont créatrices.
Tu vois, tu vas avoir en fait ton cerveau, tu peux le voir comme un émetteur-récepteur, avec à ce moment-là des croyances qui sont là, qui sont parfois limitées, parce que les croyances, elles sont en rapport avec tout ce qu'on nous a transmis, tout ce que nos ancêtres nous ont transmis, bien sûr, hein, puisqu'on est la mémoire de nos ancêtres. Tout ce qu'on a pu vivre peut-être dans nos vies antérieures, ça c'est une possibilité si on croit aux vies antérieures, et peut-être même aussi dans nos vies postérieures, c'est-à-dire dans les vies futures, parce que quand on est dans le monde de l'information, on pourrait entendre qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Donc s'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, ben, tout est en tout temps et en tout lieu dans ce monde. Donc il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, tout est là.
Donc tout n'est qu'information.
Tout n'est que présent.
Et tout n'est que potentialité.
C'est ça.
Tout ne serait que potentialité.
C'est ça.
Donc toi, Michel, qui travaille avec le cerveau de tes patients tous les jours, on pourrait dire quelque part que tu les aides par de l'information à aller changer leur expérience.
En fait, c'est aller changer leur expérience. En fait, c'est ce que moi souvent, je leur dis. On va passer d'une croyance qui est limitante et on va servir de cette croyance limitante pour essayer de la transformer en croyance aidante, en fait. Parce que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, on a toujours deux façons d'observer les choses. La première façon, et ce qui est la plus facile pour notre cerveau, c'est d'aller chercher tout ce qui ne va pas, clairement. Et la deuxième, c'est de se dire, bah, tiens,
et
cette expérience-là...
Et donc de nous victimiser.
Eh bien sûr. Et la deuxième, bah, c'est de se dire de cette expérience-là, peu importe l'expérience, qu'est-ce que j'ai en apprendre ? Comment, grâce à cette expérience, cette difficulté, je peux arriver à en faire une force demain ? Prenons les relations de couple, simplement. Moi, souvent, je le dis aux gens, et c'est tellement vrai. Quand on se met en couple avec quelqu'un, on sait déjà comment ça va finir dès les premières semaines. Et c'est vrai, tous ceux qui ont connu une rupture savent.
Si ça se finit.
Si ça se finit, si ça se finit pas, tant mieux, c'est tout le mal que je vous souhaite.
Ça
bien
dépend.
Souvent. Oui, oui, ça oui c'est vrai aussi, ou pas. Mais voilà. Et quand cette relation se finit, on a deux options. On a la première option, c'est de dire, mon ex était un con, ou c'était une connasse, et etc., et de la charger au maximum. Mais la vraie solution, et ce qui va réellement nous aider, c'est de faire le point et de se dire, de cette relation-là, qu'est-ce qui était ok pour moi, qu'est-ce qui n'était pas, qu'est-ce que je peux
déjà
en apprendre.
Déjà, j'ai aimé cette personne.
Et puis, ouais.
J'ai ouvert mon cœur. J'ai été libéré des choses.
Et puis, j'ai compris certaines choses qui vont me permettre demain, peut-être, de rebondir différemment et d'appréhender peut-être ma prochaine relation plus en adéquation avec ce qui est ok pour moi, peut-être mes valeurs, peut-être tout un tas de choses. Voilà, c'est ça en fait.
Je me permets de rebondir sur ce que tu as dit sur la notion de croyance limitante. Nous, on appelle ça des programmes.
Oui, donc, mais c'est des programmes, c'est des programmes, je suis entièrement d'accord.
Voilà, et c'est des programmes qui finalement vont être mis en place en fonction de, nous on dit, de surstress, c'est des programmes qui ont
exactement
un aspect biologique important.
Alors,
qui nous permettent de survivre dans ces situations.
C'est auditif de Pascal, quand on manipule les surstress,
les pompiers
c'est
qui
vraiment
sont
les gendarmerie, police, pompiers, je ne sais jamais reconnaître les sirènes, mais en tout cas, c'était bien à l'extérieur. Et alors, toi Emmanuel, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la lecture biologique? Parce qu'aujourd'hui, donc, tu es concepteur de cette vision, tu formes les gens. Alors, c'est ouvert à tout le monde, on peut dire ça. Hein. Thérapeute, tu as beaucoup de thérapeutes en formation. Mais tu as aussi monsieur et madame tout le monde.
Oui, des personnes parfois qui veulent simplement comprendre leur pathologie ou bien qui veulent évoluer parce qu'ils ont entendu quelque chose et ils veulent aider leur famille ou eux-mêmes.
Ouais. Et donc, la lecture biologique, elle est à l'image de ce que tu es, de ce que tu entends comme et ce que tu entends que thérapeute. Et donc, c'est de l'information qui circule lors de tes formations. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Bon, donc c'est un concept qui est basé, comme je t'ai dit, sur la spiritualité, sur aussi la physique quantique, sur l'épigénétique qui nous permet simplement de comprendre que finalement on n'est pas victime de nos gènes. Avec l'épigénétique, on peut justement modifier des programmes qui sont là, qui ont été passés par nos ancêtres dans ce qu'on appelle l'hérédité acquise. Et ça va être aussi basé sur le transgénérationnel. Et finalement aussi, évidemment, une chose très importante, c'est sur les travaux du docteur Hammer. Il faut lui remettre à César ce qui appartient à César. Puisque tout ce qui est décodage biologique, biodécodage, la source, c'est le docteur Hammer.
D'accord, docteur Hammer qui était un médecin oncologue, je crois, allemand, qui a été comme tout grand génie décrié et tout ce qu'on veut, mais qui a eu le génie de se rendre compte que d'un choc psychique, ça pouvait laisser une trace dans notre cerveau. Il avait ce talent d'aller trouver cette trace dans le cerveau, il appelait ça un foyer de Hammer, et ça avait une répercussion ensuite potentielle sur le corps, sur les organes, c'est donc ça?
Pas potentiel, c'est toujours une répercussion organique, on peut pas séparer le psychisme du cerveau de l'organe.
Lorsque c'est vécu comme un conflit?
Oui, mais c'est pour ça que quand il définit un conflit comme un surstress que tu vas vivre. Pas un stress. Moi, en arrivant ici, je pouvais être un peu plus stressé. J'ai jamais fait de radio, donc c'est parfois un peu complexe. Oui. Je ne savais pas trop comment t'allais aborder la situation. Donc, on peut être déjà dans un stress un peu plus élevé que la normale. Mais ce n'est pas un problème. Sûr. Ça ne va pas amener
de difficultés. Puis tu quittes les Vosges pour
la
civilisation.
Ville, voilà.
Et donc, un surstress, c'est quoi un surstress?
Un surstress, c'est vraiment une situation dramatique qui te prend à contre-pied. Tu vois, donc là, on peut se poser la question déjà dans toute la notion de prévention. Comment peux-tu prévenir quelque chose qui te prend à contre-pied? C'est quelque chose que tu t'y attends absolument pas.
Alors, attends, parce que Manu va très vite. Et les auditeurs, ils ont besoin de réentendre ça. C'est quoi la notion de contre-pied? C'est vrai que nous, thérapeutes, micro-kinés, hypnotiseurs, tout ce qu'on veut, on a l'habitude de ces contre-pieds parce que on le repère tout de suite chez nos patients. Mais c'est quoi? Ça veut dire que notre cerveau a l'habitude de prévoir, de se mettre en sécurité, et qu'à un moment donné, malgré tout ce travail d'anticipation, ça ne sert à rien, il y a quelque chose qui te tombe dessus.
Ah ben, par définition, dans ce que tu viens de dire, les personnes qui prévoient tout, ils sont dans le contrôle, donc ils sont dans la peur.
Donc déjà dans des stress.
Mais comme ton cerveau est un émetteur-récepteur, tu vas alors créer des peurs que tu ne t'attends pas. Ouais. Tu vois, toutes les personnes qui contrôlent sont dans la trouille. Dans la trouille, ils sont dans la peur anticipative. Nous, on en parle de ça comme ça.
Et on en a tous, on est d'accord.
Tout le temps.
Oui.
C'est pour ça que ce qui est intéressant dans notre travail, c'est de faire passer de la peur à l'amour, comme disait Annick de Souzenel. C'est vraiment la notion. Quand tu parlais de l'amour, c'est vachement intéressant tout à l'heure, parce que quand tu écoutes l'étymologie de amour, quand tu entends aour, or, c'est toujours la lumière. Alors tu vas entendre que finalement, âme à or, c'est éclairer l'âme de la personne, c'est-à-dire éclairer son inconscient, éclairer sa zone d'ombre, c'est ça. Quand tu dis je t'aime à quelqu'un, d'une certaine façon, c'est grâce à toi, je me vois. Tu vois, quelque part, tout est notre miroir. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est devant est comme ce qui est devant nous ou à l'extérieur est à l'intérieur.
On retrouve ce concept de « je te vois » qu'on avait abordé avec Stéphanie Mougel et les constellations familiales. Mmh. Et alors, qu'est-ce que vient faire la peur dans ce cas ?
Ben, au départ, tu vas avoir ce surstress. Dans ce surstress, tu vas surtout te retrouver dans une totale impuissance. Et face à cette impuissance, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu ne peux pas attaquer ni fuir face à cette situation où ton attaque... Ouais, t'es sidéré.
Donc c'est les travaux de Henri Laborie, c'est ça ?
Tu vas retrouver les travaux d'Henri Laborie qui expriment justement ces impuissances et qui vont avoir des répercussions sur le corps, tout simplement.
Alors une impuissance, c'est quoi ? C'est face à un surstress, à un danger, quelque chose dont je ne m'attendais pas, que je vis à contre-pied, que je vis dans l'isolement.
Tu vas vivre cet événement dans l'isolement. C'est vrai, c'est-à-dire qu'en général, le nombre de fois où je travaille avec des personnes, ils disent « mais j'en ai jamais parlé à personne de ça ». C'est ça l'isolement. C'est-à-dire que tu peux le vivre, avoir plein de monde,
on peut avoir plein de monde
de
autour
toi,
de nous, mais dans notre ressenti, à l'intérieur, tout on seul. Est seul dans notre panade, dans notre stress, dans ce conflit. Donc c'est à contre-pied. On se sent seul.
Ouais. T'es totalement impuissant, c'est-à-dire que tu peux ni attaquer ni fuir. Parce que dans la nature, il n'y a que deux possibilités. Si t'as un lion, c'est ça, archaïquement parlant, si t'as un lion qui est devant toi, ou tu le tues, ou tu fuis. Et si tu peux faire ni l'un ni l'autre, t'es dans le conflit.
Et cette sidération, alors, elle ne sert à rien. C'est juste une conséquence.
Bah c'est un préprogrammant qui est déjà là, en fait. Hein. C'est je suis face au lion et peut-être si je bouge pas, il va pas me voir, il va peut-être pas me bouffer, en fait. Hein.
Ouais. Mais tu sais, on peut retrouver ces mêmes énergies déjà chez des enfants qui vont vivre des amyosynthèses. On a pu voir des amyosynthèses où alors tu as l'enfant qui va être complètement sidéré. D'autres enfants, j'ai un ami que j'ai formé.
Tu peux rappeler ce que c'est une amyosynthèse pour nos auditeurs ?
Donc s'il y a un risque d'handicap pour un enfant, on va alors prélever du liquide amniotique pour voir si l'enfant n'est pas handicapé.
Et donc on vient
transpercer la poche des os.
La poche avec un croc du prédateur, comme tu dis.
C'est ça. Qui fait à ce moment-là, évidemment, réagir l'enfant. Ce qui est étonnant, c'est que l'enfant qui a les yeux fermés, qui ne voit pas, il peut déjà réagir directement à cet événement, presque avant qu'on tape sur l'aiguille transperce.
Ça rejoint les expériences sur les plantes, où avant même de commencer à couper une plante, on met des capteurs sur la plante, elle est déjà en surstress parce qu'elle sait qu'on va atteindre son intégrité.
Bah, la pensée avant la matière. Hein.
Bien sûr, mais, toujours.
Bien sûr, mais tout le monde n'a pas connaissance de ça. Quand les auditeurs, auditrices, quand vous posez une intention, vous émettez déjà une onde, une onde de potentialité. C'est-à-dire que même avant même d'avoir fait du mal à une plante, à un enfant, à votre compagnon, compagne, ou même à vous-même, cette information existe déjà. Et ensuite, elle est captée ou pas.
Bah, elle va être captée si tu la vis. Par définition, elle sera captée. Mais c'est la façon dont elle va être captée qui va être évidemment fondamentale. Et ça, elle appartient à chacun en fonction de préprogrammants, comme tu le dis. Il y a des programmants. Si tu regardes l'enfant qui a été, par exemple, agressé par un croc du prédateur dans le ventre de sa mère, on a pu voir quand même des enfants qui attaquaient l'aiguille et d'autres qui se barraient dans le fond du ventre. Donc tu vois, il y a déjà cette notion d'attaque et de fuite que tu retrouves finalement de manière fondamentale dans la médecine aussi chinoise, puisque tu vas avoir l'énergie féminine et l'énergie masculine face à une situation. Attaque, c'est masculin, fuite, c'est féminin.
Et donc, ce qui peut expliquer ensuite les comportements presque acquis chez un enfant, par exemple sur un vaccin où il va du coup mal réagir.
Oui, tu peux retrouver des peurs, des phobies d'aiguilles dues à ça.
Des phobies d'aiguilles ou des réactions épidermiques, on peut le dire, suite à des choses qui viennent transpercer le derme.
Oui, mais tu sais, dans l'exemple que je viens de donner, c'est assez surprenant. C'est souvent des enfants qui, à un moment donné, si cette amyosynthèse a été vécue à 3-4 mois, parfois c'est plus tard, ça dépend. Ben, si ça a été vécu vers 3-4 mois, ben, l'enfant, vers 3-4 ans, peut déclencher des pathologies inexpliquées. Ou parfois, ils vont commencer vers 3 ans ou 4 ans, parce que, comme j'expliquais tout à l'heure à Stéphanie, c'est vraiment la notion où le cerveau garde en mémoire le chiffre. Et donc, on peut retrouver des situations que tu vis à 3-4 mois, et puis tu peux le retrouver à 3-4 ans, et l'enfant, à 3-4 ans, tout d'un coup, il peut rentrer dans des angoisses profondes, dans la nuit, par exemple. Parce que dans le vent d'une mer, il fait noir. Et c'est un prédateur qui vient l'attraper.
Ah oui. Alors moi, je sais, Manu, à titre personnel, qu'à l'époque, tu m'avais beaucoup aidé par tes informations lorsque je recevais beaucoup d'enfants qui faisaient des bronchiolites ou de l'asthme. Et c'est vrai que tu m'avais dit à l'époque, mais cherche toujours à quel moment l'enfant va déclencher ce genre de pathologie. Et ensuite, tu vas, par des mémoires cycliques, rechercher à quel moment, dans le ventre de la maman, etc. Et c'est vrai que vous qui nous écoutez, prenez conscience de ces cycles. On en parle souvent avec Michel, les cycles. Hein, on a parlé beaucoup de Marc Fréchet, etc.
Exactement.
Le cerveau retient les chiffres,
le nombre.
Et il va le répéter de manière logique pour lui, c'est parce ça. Que c'est normal pour le cerveau de le
et
faire.
Et alors, on peut répéter, si j'ai un trauma donc à 18 ans, j'ai un accident de voiture à 18 ans, je peux aller rechercher à la moitié de l'âge, à 9 ans, qu'est-ce que j'ai pu vivre. Ouais. Et puis, on peut aussi aller rechercher, souvent on va trouver quelque chose à 9 ans, et puis 9 ans, ça va, pour le cerveau, symboliser les 9 mois, donc la naissance. Qu'est-ce qui se passe à la naissance? Donc, si j'ai failli mourir à la naissance, il se pourrait qu'à 9 ans, je vive quelque chose difficile et qu'à 18 ans, je fasse par exemple mon accident de voiture.
On va rester sur les mêmes thématiques. Hein.
Ouais, par
toujours.
Exemple, ouais.
On va reproduire.
Et
sans
donc,
arrêt.
Toi, en lecture biologique, tu reprends les travaux du docteur Hammer, donc sur on peut appeler ça le décodage biologique, je ne sais pas comment tu veux appeler ça.
Non,
lui, au départ, c'est la nouvelle médecine germanique.
Oui, lui, c'est la nouvelle médecine germanique. Alors, moi, j'ai appelé ça lecture biologique parce que c'est basé en même temps sur d'autres concepts.
Oui.
Et les personnes que je soignais, ils disaient, mais vous lisez en moi comme dans un livre ouvert.
Donc le terme de lecture.
Lecture biologique.
Biologique parce que tu es très, c'est ce que j'ai toujours aimé chez toi, tu es très précis.
C'est parce que ça impacte vraiment la biologie et le corps même. Et donc finalement, la lecture biologique, c'est un concept qui te permet de pouvoir simplement comprendre, permettre à la personne de comprendre sa pathologie ou permettre à la personne de comprendre ses comportements. Parce que derrière tout ça, il y a toujours un sens biologique.
Mmh.
Et donc, on peut partir soit d'un symptôme et essayer de reconstituer ce que la personne a vécu. En fait, le surstress, c'est une chose, c'est pas un problème. Le surstress, ce qui est le problème, c'est la façon dont tu vas le vivre. On sait très bien qu'on a vécu des choses dures, mais on sait jamais comment.
Donc, si tous les trois, nous sommes dans une voiture et que nous vivons un accident, tu es en train de me dire que nous n'allons pas vivre, nous n'allons pas avoir le même ressenti de cet accident.
Bien sûr.
Non.
Toi, tu vas le vivre comme une injustice,
parce qu'une
personne nous a coupé la route.
Par exemple.
Toi, tu vas le vivre comme un énorme danger frontal, parce que tu seras assis devant et que tu vois le danger arriver. Et moi, j'aurais rien vu.
Je vais être complètement surpris.
Et mon cerveau va se sidérer, d'accord? Qu'est-ce que ça peut faire comme conséquence chez chacun de nous trois?
Si tu le vis dans une notion d'injustice, tu peux retrouver les voies biliaires, bien sûr.
Donc l'organe, tout ce qui est voies biliaires, pancréas, vésicule biliaire.
C'est les voies biliaires, la vésicule biliaire. Mais ce n'est pas que l'injustice, la vésicule biliaire. Hein. Tu peux avoir, c'est simplement tout type peut-être d'injustice, mais de colère parfois, les problématiques de partage. Tu vois, elle sera toujours en corrélation avec une autre partie du foie qui est les hépatocytes. Donc on peut retrouver même le respect. Tu vois, il y a le manque de respect, il y a parfois le manque de réalisation.
Donc toi, dans ce cas-là, dans ce cas de l'accident, tu vas le vivre comme une injustice. Donc ça peut avoir une répercussion
sur un organe qu'on appelle les voies biliaires.
Plusieurs semaines, plusieurs mois après?
Tant que tu ne le comprends pas. Parce que le premier but de la lecture bio, c'est de comprendre ce que tu as vécu. On sait bien qu'on a vécu des choses dures, mais on ne sait pas comment on les a vécues. Et c'est justement, soit en partant de l'organe lui-même qui est touché avec des symptômes bien particuliers, tu pourras alors savoir comment tu as vécu quelque chose. Ou alors, tu pourras simplement partir c'est ma façon dont j'ai mis en place les choses, c'est de travailler de manière subtile sur les cartes du cerveau que Hammer a mis en place. Parce qu'il a observé que pour une même perception d'un événement, c'est toujours une même zone cérébrale qui est touchée, le même organe qui est touché.
Donc,
pour lui, il a exprimé qu'on a une fonction supplémentaire par aire cérébrale. Il a cartographié tout le cerveau en donnant justement ces répercussions physiques très particulières.
Donc, c'est-à-dire que demain, suite à cet accident de voiture, Michel vient te voir, ou moi je viens te voir même des années après, toi tu vas nous écouter. Certes, tu vas écouter notre demande, le motif de consultation, mais ce qui va t'intéresser, c'est de faire de la lecture de notre biologie en passant par une représentation holographique de notre cerveau.
C'est ça. Via le corps, je vais interroger le cerveau. Comme je dis toujours à mes patients, je vais me brancher sur votre cerveau qui est un bêta-émetteur.
Mais c'est exactement ça. Tu te branches vraiment sur le cerveau.
Et via donc, le corps, j'interroge le corps.
Et donc à ce moment-là, chez Michel qui aura vécu, toi tu vas retrouver dans son cerveau, tu vas retrouver cet événement, alors que lui aura peut-être oublié, et comment tu vas retomber sur cet événement de l'accident de voiture qu'il a vécu comme un grand stress face à lui?
Parce que nous, j'ai gardé en mémoire évidemment comment on fonctionnait en micro-kiné et on peut dater les événements. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que le corps va te donner tout. Tu demandes, je dis toujours, demandez, vous serez accordé. Tu vois, c'est, on retrouve toujours la spiritualité.
Je confirme que ça marche.
Et alors, donc, tu demandes au corps et le corps te donne exactement le moment où tu as vécu ce surstress. Et en fait, tu iras chercher la première fois où tu as vécu un surstress. Parce que si tu vis un accident, c'est peut-être pas un hasard.
Oui. Donc cet accident aura répercuté
d'autres événements, parfois de ta propre vie ou de tes ancêtres, qu'on appelle le transgénérationnel.
D'accord. Donc cet événement nous permettra de mettre en lumière d'autres événements qui ont précédé.
C'est ça.
Souvent entre 0 et 7 ans, si c'est vécu par Michel, mais qui peut porter aussi en préprogrammant, donc de sa famille ou du transgénérationnel.
Oui.
C'est passionnant.
Ah bah c'est quand tu commences à creuser ce genre de choses, c'est bluffant. Hein.
Oui.
D'accord.
C'est toujours juste, c'est extraordinaire.
Ouais, c'est ça.
On pourrait dire que le corps ne ment pas.
Le corps, on ne ment jamais.
Et on pourrait dire aussi que la musique ne ment pas. On se retrouve tout de suite, les amis.
Bien-être et vous, l'émission qui parle de vous. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means. But since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night.
You.
Avec l'intervention de leurs invités, Fouad et Michel mettront en lumière diverses approches thérapeutiques.
De retour.
Ah les amis, si vous saviez tout ce qui se passe pendant les pauses.
Ouais, il se passe
tout ce qu'on
choses.
Peut se dire.
Surtout avec Manu, hein, ça va vite. Non, mais,
ouais. C'est, il faudrait qu'on fasse une émission publique un jour.
La vitesse, la thyroïde.
Oui. La vitesse, la thyroïde.
Voilà. L'organe du temps.
Organe du temps, c'est vrai, la thyroïde. Les gens souvent ne savent pas ce que, à quoi sert la thyroïde. C'est un peu le métronome.
C'est ce qui te permet d'aller vite ou de ne pas aller vite. Tu vois, si jamais tu dois aller plus vite, ben ça peut te donner parfois des hyperthyroïdies. Si tu te retrouves coincé et que tu ne peux plus bouger, parce que nos mouvements, c'est la survie. Chez les animaux, parfois, ils ne bougent plus. Ben ça peut donner des hypothyroïdies.
Eh oui.
Mais c'est toujours, dans tout surstress, la thyroïde est touchée. Tu sais d'où ça vient, l'étymologie de thyroïde? Tu te souviens?
Tu te souviens pas, Fouad? Allez, on t'écoute.
Thyréa.
Ça vient du grec thyroïdes,
thyroïdes,
qui veut dire un bouclier. Donc quand tu entends cette énergie...
C'est une forme de bouclier, c'est vrai.
C'est ça. Ouais. Et bouclier, boca, c'est la même étymologie, c'est tout près de la bouche. Et au départ, les animaux archaïques, ils devaient attraper vite la nourriture, c'est pour ça que c'est tout près de la bouche. Mais un bouclier, tu vas l'utiliser face à des situations qui sont devant toi, pas derrière toi.
C'est pour ça que c'est très lié aux gros ganglions.
Entre autres. Mais c'est surtout des grandes peurs, évidemment, des choses qui sont sur toi ou devant toi et sur lesquelles tu n'arrives pas à réagir.
Alors un exemple, c'est une naissance.
Par exemple.
C'est un accident de voiture,
ouais,
c'est par ça. Exemple.
Une lettre qui m'arrive et que je n'ai pas vu venir avec des choses qui me terrorisent, je ne sais pas moi, ça peut être pas le
oui, s'il y a une notion de temps.
Oui, il faut faire
tu
vite.
Tu sais, ça peut être un test de grossesse.
Eh oui.
Et que tu décides d'avorter ou pas avorter, mais tes limites dans le temps. Il y a tellement de possibilités. La thyroïde est toujours touchée dans n'importe quelle situation.
Toujours avec notion de temps. Bah oui, parce qu'on vit dans un espace-temps.
Et sur la même situation, une personne choisira plutôt d'aller plus vite, tandis qu'une autre choisira de plus bouger.
Ouais, oui. On est tous différents sur un même événement. On ne va pas avoir le même ressenti.
Ah ben.
C'est pour ça que c'est les programmes qui vont se mettre en place sont totalement en dehors du champ de conscience de la personne.
Alors ça veut dire quoi, en dehors du champ de conscience?
C'est-à-dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle vit. C'est l'inconscient qui va choisir un programme parce que l'inconscient est un million de fois plus puissant que le conscient. Michel le sait bien.
Oh oui.
Et donc, comme l'inconscient est un million de fois plus puissant et plus rapide que l'inconscient, c'est lui qui va choisir.
Tu peux redonner un ordre d'idée de ce que le conscient gère et de ce que l'inconscient gère en nombre d'informations?
On peut penser que, Michel, tu me diras si je me trompe, moi je dirais, dans ce que j'ai pu lire, l'inconscient gère à peu près 4 milliards d'informations par seconde.
Pardon?
Oui.
Pardon. Vous entendez?
Mais c'est énorme, on ne s'en rend pas compte, mais la lumière, le toucher, la température de la pièce, il y a plein d'informations.
C'est quoi toutes ces informations?
Ben, c'est tout ce qui te permet de t'adapter à ton environnement, parce que c'est ça finalement, c'est s'adapter à un environnement.
L'homéostasie, donc de notre corps par rapport à notre environnement.
Ben, si tu as de l'homéostasie, je ne suis même pas sûr, parce que finalement, il faut plutôt une irritabilité pour vivre. Parce que l'homéostasie, c'est...
Le calme plat. Il faut qu'il y ait du mouvement.
Ah bah oui. Ah oui, le mouvement c'est la vie.
Donc tu es en train de dire à nos auditeurs que s'ils ont des soucis dans leur vie, c'est qu'ils sont en train de vivre.
Ben, si on avait une totale cohérence entre notre inconscient et notre conscient,
nous serions morts.
Nous serions énergie pure. Nous ne serions plus que un. Et dans la matière, nous sommes duels, par définition. Et une pathologie n'est qu'une incohérence finalement entre ton inconscient et ton conscient. Ou entre ce que ton âme est, est-ce que tu manifestes dans ta vie?
Donc, moi, je suis auditeur, là. J'entends ce que Manuel Corbel est en train de dire. J'ai ma vie, j'ai mon boulot, j'ai mon mariage, j'ai ma voiture, j'ai ma mutuelle, mais je me sens vraiment pas bien. J'ai une incohérence entre ce que je vis et ce que mon âme aimerait vivre.
Ouais.
Et là, je peux en tomber malade.
Ouais.
Et là, je fais comment?
Ben, le cerveau va essayer de s'adapter à cette situation puisque tu ne changes pas. Le but d'abord c'est de pouvoir changer, mais tant qu'on ne comprend pas pourquoi, d'où vient cette pathologie, comment veux-tu changer?
Donc c'est prendre conscience.
Oui, la première chose, la première étape d'une évolution, c'est une prise de conscience pour moi.
La première étape de l'évolution, Michel, c'est de prendre conscience.
Bien sûr, en fait, et je rejoins complètement Manu sur le sujet. Pourquoi? Parce que ton inconscient va créer un comportement de protection, toujours. il veut te protéger de quelque chose, donc il va mettre un comportement en place pour te protéger. Comportement qui, au départ, moi j'ai tendance à le dire, dans chacun des comportements humains, il y a toujours une intention positive finalement. Sauf que ça marche que la première fois. Après, c'est des récidives. Et la récidive est peut-être pas aussi bonne que la première. Et comme le cerveau fait des copier-coller, il va à la simplicité en fait.
Donc on fait du copier-coller de quelque chose qui n'est pas bon pour soi ?
C'est pas que c'est pas bon pour soi, c'est que ça a été très bon pour nous la première fois. Ok ? Cette situation, la première fois, je suis face à un danger. Tiens, je suis en voiture, quelqu'un me fait une queue de poisson, ma première action c'est je gueule. Ok ? La première fois, ça m'a aidé parce que ça m'a soulagé. Mmh. Voilà, j'ai évacué, j'ai crié en fait de peur. Mmh. Mmh. La deuxième fois que je vais la refaire, je vais crier de peur, mais je vais ajouter une insulte. La troisième fois, la quatrième fois. Et il y a un moment donné où c'est... En fait, et c'est là où souvent les gens viennent nous voir d'ailleurs, c'est quand ce comportement qui s'est reproduit devient une souffrance, où elle se traduit dans le corps. Et c'est là où seulement les gens bougent.
Et donc il faut aller prendre conscience
de la première,
idéalement,
du programme. La première fois où tu as vécu quelque chose.
La première fois. Donc toi, que tu appelles comment en lecture biologique ?
Un programmant.
Et parce que c'est pareil.
Parce que tu mets en place un programme. Mais le programme, c'est un programme de survie.
C'est ça.
Donc c'est positif, ce programme.
Donc vous êtes en train de me dire tous les deux qu'au départ, tout comportement que nous avons face à un surstress, face à un danger, c'est uniquement pour de la survie.
C'est ça.
Toujours.
Mais qu'à un moment donné, ces programmes de survie peuvent, entre guillemets, se retourner contre nous, alors ne sont plus adaptés.
C'est pas qu'ils se retournent. Enfin, moi, je sais pas, tu me diras. Moi, je suis pas de cet avis-là. Je suis plutôt de l'avis de dire le corps, en tout cas, le cerveau, le corps essaie de nous envoyer un message qu'on comprend pas, en fait.
Oui, parce qu'on l'a souvent vécu, soit dans la vie intra-utérine, soit tout petit.
Alors, c'est quoi ce dont vous parlez, les récidives ou les répétitions ? C'est quoi ce concept ?
Ah, bah, c'est le. Moi, je l'appelle le copier-coller du cerveau, mais en fait, on nous explique, et tu vois, typiquement, quelqu'un qui fait un accident de voiture à 18 ans, on peut aller rechercher, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? On va commencer simplement par diviser par deux. Pour commencer en se disant, bah tiens, à 9 ans, il y a dû se passer un truc. Effectivement, il s'est passé
un truc.
Mais
c'est la personne d'elle-même se dit, tiens, je vais aller
faire
un accident de voiture.
C'est complètement inconscient.
Ça veut dire que tu es en train de me dire, Michel, que ton cerveau inconscient,
bien sûr,
va t'amener à vivre un truc aussi dramatique qu'un accident de voiture.
En fait, pour lui, c'est logique de le reproduire. C'est pour ça qu'il te le fait refaire, en fait.
Comment
pour, encore une fois, pour te transmettre l'information et pour te dire, oh, il y a un premier trauma ou un premier conflit, si tu veux, qui n'a pas été réglé. Tu ne l'as pas réglé, je te le resserre une deuxième fois.
Quel est le sens de tout ça, Manu ? Des récidives ? Des répétitions dans notre vie ?
Te faire prendre conscience.
C'est tout. D'aller toujours rechercher le...
Tant que tu n'as pas compris quelque chose, la nature étant très généreuse, comme je dis toujours, elle va te resservir.
La nature étant généreuse.
Oh, je la garde, celle-là, merci.
La nature étant généreuse,
c'est très vrai.
Elle vous le resserre.
C'est ça. Et ça, c'est en fonction de tes fréquences cérébrales, en fonction donc de tes croyances et de tes programmes.
Alors, comment je fais ?
Ben, il faut déjà identifier le pourquoi tu as déjà une pathologie ou tu vois, nous, avec notre façon de faire, on peut rechercher directement dans le cerveau en travaillant de manière subtile. Donc, ça veut dire qu'on va directement dans l'inconscient sans filtre. Et on va rechercher le programme, on va demander quand est-ce que ça a été mis en place. Et tu vas, à ce moment-là, permettre à la personne d'identifier d'où vient son problème, d'identifier cette pathologie.
Précis lorsque tu es avec ton patient, comment tu fais pour être précis ? Comment tu fais pour ne pas partir partout ?
Ah ben ça, parce que je n'ai aucun doute sur ma façon, ça ne veut pas dire que je ne suis pas ouvert, je n'ai aucun doute sur ce que je peux recevoir. En fait, je suis, quand je travaille, j'ai tendance à prendre alors une énergie plutôt de chaman, c'est-à-dire je suis totalement concave. Et j'utilise les deux énergies, c'est-à-dire j'utilise l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, donc je demandais, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, et je reçois. Mais je reçois sans rien attendre. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui vient pour une problématique moi, d'entorse de cheville, par exemple, et dans mes relations que je vais trouver avec la carte du cerveau, je peux très bien retrouver simplement un endomètre de l'utérus. Et alors, je vais devoir faire la relation, et moi, je crois ce que le cerveau va me donner, et je ne me doute pas là-dessus.
Donc, mais quand je te demande en quoi tu es précis, c'est parce que tu vas interroger le cerveau, et il va te donner une zone bien précise avec un organe ou une...
Qui correspond à un organe bien précis,
voilà,
et un ressenti bien précis.
Donc là, dans l'exemple de l'entorse de cheville, tu vas tomber sur...
Par exemple, sur une endomètre de l'utérus d'une femme, ben ça, l'endomètre de l'utérus, c'est quoi ? C'est simplement la peur de ne pas pouvoir protéger un petit.
Alors, on va rappeler aux auditeurs, c'est quoi l'endomètre ? C'est quoi un utérus aussi? L'utérus, l'organe qui permet de nicher d'accueillir. Le futur bébé, d'accueillir. Et l'endomètre,
c'est là où ça va nidifier, ouais, justement.
C'est un peu le tissu qui va permettre...
C'est le coussin de protection, voilà, c'est le cocon.
Ça absorbe, et puis ça va amener le sang pour nourrir l'enfant, et alors il va être... absorbé comme ça dans la matrice pour pouvoir grandir.
Et ce qui explique pourquoi vous, les auditeurs, auditrices, parfois vous avez besoin de vous sentir bien, surtout l'automne, l'hiver, acheter vos petits plaids, vos petits, comment on appelle, pilou-pilou, les petits trucs comme ça.
Ouais,
on pourrait imaginer que c'est cette mémoire de l'endomètre. Est-ce que l'endomètre de ma maman était-il accueillant ou pas? Est-ce que j'avais la buffet à volonté ou pas? Est-ce que l'ambiance était bonne? C'est toutes ces ambiances-là.
Par exemple, et dans l'exemple que je te donne, s'il y a une entorse de cheville qui correspond à ça, ben, on pourrait penser... quelle est la difficulté qu'une femme a pu vivre de partir ou de rester? Parce que l'entorse de cheville, c'est je suis écartelé entre le fait de partir ou de rester par rapport au fait de ne pas pouvoir protéger un enfant. Que ce soit parce que je me suis posé la question, je fais une IVG, je ne fais pas une IVG, je quitte mon foyer, je ne quitte pas mon foyer.
Donc ceux qui nous écoutent vont se dire, tiens, si je fais une entorse de cheville, ça peut vouloir dire que derrière l'entorse de cheville, il n'y a pas juste faute à pas de chance, il y avait un trou, le pavé, le talon qui a cassé. Non, c'est parce que j'ai peut-être un conflit dans le fait de partir ou pas, c'est d'y ça. Aller ou pas, un conflit de direction.
Oui, en fait, c'est au-delà de ça, dans l'entour de la cheville, tu as la direction, mais c'est le fait de pouvoir garder quelqu'un ou des situations ensemble parce que tu as un ligament.
Écartelé.
Et le ligament, il lie les articulations. Donc, c'est vraiment essayer de garder quelque chose ensemble.
D'accord.
Voilà. Donc, en parlant d'autres exemples, si tu veux, quand on fait un avortement, mais si un enfant vient derrière dans cet utérus, ben c'est parfois un utérus qui peut être un peu morbide, même si c'est un terme un peu difficile à entendre.
Ça veut dire que le bébé qui est conçu sur une seconde grossesse suite à un avortement arrive dans une ambiance morbide,
un peu froide. Parce que lui, quand une maman va se retrouver enceinte une seconde fois, son cerveau inconscient, c'est pas elle qui va décider, même si elle attend cet enfant qu'elle va chérir de tout son cœur, son cerveau inconscient va ouvrir la première fois. Et s'il ouvre la première fois, ce sera l'avortement. C'est comme ça qu'on peut retrouver parfois plein de situations avec des enfants, et quand on trouve des choses dans la vie intra-utérine, la maman, elle va te dire « Ah ben non, c'est pas pour celui-là, c'était pour celui d'avant ». Mais c'est parce que c'est le rappel inconscient. Ça s'appelle aussi un rail.
Donc, ce que tu appelles copier-coller, Michel, toi, tu appelles ça un rail de conflit. Un rail de conflit, c'est le cerveau qui se souvient d'une ambiance, d'une temporalité.
Un détail de l'arrêt sur image.
Alors, ça, il faut que tu expliques aux auditeurs. C'est quoi un détail?
J'adore l'image.
C'est quoi un détail?
Quand tu vas vivre une situation, je dis toujours, comme ton cerveau est un bête ordinateur, hein, il est un peu con-con, et il n'aime pas changer d'ailleurs.
Très égocentrique,
voilà, il est bien dans son programme, ben, il va alors ouvrir un petit dossier. Et dans le dossier, il va mémoriser mais toute la scène de l'événement dans les moindres détails, avec les cinq sens. C'est pour ça que quand on a un conflit, tu as toujours au moins un organe.
Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret pour nos auditeurs? Alors, je rentre le soir chez moi, je rentre plus tôt que prévu, je suis content, j'arrive, et puis, la voiture de ma femme, elle est rentrée plus tôt que prévu, elle aussi. Et puis j'arrive, et puis, elle n'est pas toute seule. Okay. Donc là, c'est un événement que je n'avais pas pu voir venir.
Dramatique, pris à contre-pied,
dans l'isolement, et avec beaucoup d'impuissance. On est d'accord. Et là,
dépend,
à ce moment-là...
Ça dépend comment tu vas le vivre. Hein.
Alors,
c'est toujours ça.
Voilà. À ce moment-là, moi, je le vis mal.
Ah. Tu le vis bien et que tu participes avec eux, il n'y a pas de problème.
Tout va bien.
Michel, toi, tu ne le vis pas comme un conflit. Moi, par exemple, je le vis comme un conflit, imaginons.
Ouais.
Là, à ce moment-là, mon cerveau va enregistrer tous les détails de cette scène. C'est ce que tu appelles l'arrêt sur image.
C'est ça. Et si ça dure un certain temps, ben c'est un film.
Il est 16h13. Il fait 22 degrés dans la pièce. Je suis debout. Tu es en train de me dire, Manu, que des années après...
T'as une poignée en plastique dans la main et pas en métal.
Ouais. Des années après, quand il est 16h13, j'ai toujours un coup de fringale où je me sens pas bien une journée.
Ça
pourquoi?
Parce que si tu parles du coup de fringale, à ce moment-là, ça va être simplement une grande peur face à cette situation qui était devant toi, qui va jouer sur un organe qu'on appelle...
Redis-moi, une grande peur dans laquelle... Pancréas peut-être?
C'est une partie du pancréas.
Une partie du pancréas.
Ça va jouer sur l'insuline et le glucagon.
Oui.
Donc ça va jouer en fait sur le glucagon, qui va avoir un blocage au récepteur du glucagon, si on veut aller dans les termes techniques, qui va te donner à ce moment-là...
Les cellules plus bêta de Langerhans.
Les cellules alpha.
Alpha, pardon.
Et ce qui va faire en sorte que tu vas avoir alors un peu plus d'insuline proportionnellement, puisque tu auras moins de glucagon, et ça va te donner des hypoglycémies. Mm-hmm. Et donc, tu auras mangé du sucre.
Et donc, ça explique pourquoi à ce moment-là, bizarrement, tous les jeudis, hein, parce que c'était un jeudi, hein, tous les jeudis à 16h13, bon sang, j'ai un coup de moins bien.
Voilà. Et si tu le vis comme une colère ou une injustice, ben en plus, tu vas avoir une petite vésicule biliaire qui va se mettre en route, là, et ça aura peut-être une bonne petite chiasse associée.
Intéressant.
Ouais.
Et alors... Ça, c'est ce qu'on appelle le rail
de
conflit.
Et s'il y a des choses que tu avais... S'il y avait une lumière bien particulière, ben cette lumière peut te ramener des douleurs dans les yeux parce que tu as vu quelque chose que tu as intolérable.
Oui, le jour-là, j'ai la lumière dans les yeux,
ouais,
lors de la scène. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais être dans le même contexte,
c'est ça.
Ça va me rappeler ce trauma. Tant que je n'ai pas pris conscience...
C'est ça.
Tant que je ne l'ai pas libéré, comme on pourrait dire.
Si prendre conscience permet parfois simplement de libérer, mais parfois ça ne suffit pas. Tu vois, là, comme j'ai dit tout à l'heure, la première étape, c'est la prise de conscience. Mais tu ne changes pas les choses profondément, si tu ne les acceptes pas, si tu ne les mets pas dans ton sang, il n'y a rien qui changera.
Si je ne me repositionne pas par rapport à cet événement.
C'est ça. Rectifie, disent les alchimistes. Visite tes terres intérieures, rectifie. Rectifie, ça veut dire agis.
Et alors j'agis par quoi ? Par l'énergie du pardon, de l'acceptation ?
L'acceptation d'abord, et puis de pouvoir pardonner si tu veux évoluer. Et le pardon, c'est, quand tu écoutes bien ce terme, c'est se libérer. C'est je te redonne ta part, je peux reprendre alors la mienne que je t'avais laissée ou que tu m'avais volée, et je peux être à ce moment-là entier.
Alors Manu, moi j'ai vécu ça. J'ai vécu ça comme une trahison, comme une colère, comme quelque chose de choquant. Comment veux-tu, Manu, que j'accepte ça et que je pardonne ? C'est impossible pour moi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce patient qui vit ça, par exemple?
Ben, si tu ne pardonnes pas, ce n'est pas un problème. Tu as le droit de ne pas pardonner, mais à ce moment-là, tu vas retrouver les mêmes situations devant toi.
Donc, voilà, là, ça devient intéressant. Non seulement je garde cet événement traumatique en moi, comme une souffrance que je garde dans ma vésicule biliaire, dans mon pancréas, dans mes yeux, dans ma mémoire, mais en plus, tu es en train de me dire qu'il se pourrait qu'inconsciemment,
tu vas
je fasse cette fameuse récidive, ce fameux copier-coller, ce qui fait que l'univers généreux comme il est va me faire revivre cet événement.
Pour que tu puisses l'accueillir et l'accepter.
Voilà, vous avez tout compris.
Si tant que tu n'acceptes pas quelque chose, accepter, il y a un organe bien particulier, c'est déjà, on peut le voir avec l'intestin grêle. Tu vois, le nombre de personnes qui ont des problématiques d'intolérance alimentaire, ce genre de choses.
Colopathie fonctionnelle.
Voilà. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas encore accepté une situation. Parce que l'accepter, c'est toute situation, le cerveau va le traduire comme un morceau de nourriture qu'il va falloir digérer. Si
donc l'intestin grêle qui sert à assimiler.
À assimiler la nourriture.
C'est pour la mettre dans son...
Dans son sang.
Sang.
Et tant que tu n'as pas mis quelque chose dans ton sang, ce n'est pas à toi. Et si tu acceptes et que tu arrives à ce moment-là, c'est pour ça que je dis dire merci, tu vois. C'est vraiment ça, c'est dire merci. Je t'aime, merci. Tu m'as éclairé, j'ai accueilli, et maintenant je vais pouvoir changer quelque chose dans ma propre vie. Mais c'est pas simple, hein.
Alors, c'est pas simple, et moi, pour retenir ce que Manu vient de dire, parce que c'est quand même très important, il y a notre cher ami Jules de Marseille qui dit « le J, c'est le S ». Et grâce à Manu Corbel, désormais, vous saurez que l'épreuve dans votre vie, c'est le S. C'est-à-dire, tant que vous ne le mettez pas dans votre sang, tant que vous n'acceptez pas et que vous ne l'assimilez pas, il se pourrait que vous soyez contraint de rejouer cette épreuve jusqu'à ce que quoi ? Ce qu'on soit dans une acceptation totale, qu'on soit ce réceptacle des épreuves dans la vie. Et qui nous aide à quoi ? Pourquoi on vivrait ça ?
C'est le choix que tu as fait de venir éprouver quelque chose pour pouvoir modifier peut-être des choses de tes vies antérieures ou de tes vies passées ou de tes vies futures.
Eh oui. Tu sais, moi, il m'est arrivé une expérience assez drôle et bluffante comme ça en cabinet où je reçois deux personnes qui sont amies, qui ont un lien entre eux, mais ils ne comprennent pas trop. Pardon. Et on décide, un jour, je leur prends rendez-vous à 9h, l'autre à 10h, je leur fais les vies antérieures sous hypnose. Et sans les prévenir, donc ils ne savaient pas. La première vient, sa vie antérieure à elle, c'est « j'ai été assassiné », etc., etc. Et il s'aperçoit que le mec qui l'a assassiné dans sa vie antérieure est son ami. Ok ? Tu sais ce qu'elle fait comme métier aujourd'hui ? Elle est infirmière. C'est quand même très drôle. Mmh. Lui fait la même séance, juste après, sans savoir ce qui s'est passé avant. Il découvre la même scène, sauf que c'est lui qui l'a assassiné finalement. Ok ? Vous savez ce qu'il fait comme métier aujourd'hui ? Il est policier. Voilà, voilà encore un exemple de choses qui peuvent se régler. Et là, encore une fois, on vient finalement peut-être guérir ce qu'on a, ou travailler, ou expérimenter, on peut le voir de différentes manières, ce qu'on a vécu peut-être dans d'autres vies. On y croit, on n'y croit pas, hein, chacun son choix. Hein.
C'est ça.
Moi, en tout cas, j'y crois, et pour l'avoir vécu plus d'une fois dans différentes situations, oui, c'est très clair. Et je suis entièrement d'accord avec toi.
Ouais, et puis ça va ramener toute l'énergie du transgénérationnel. Dans le transgénérationnel, on peut voir finalement, on choisit sa famille. Donc si on choisit famille, c'est parce que c'est l'histoire de cette famille-là qui aura une capacité de nous faire bouger, nous, dans notre propre vie.
Elle nous fait grandir.
Et de savoir qui on est, en fait. Parce que c'est ça, rechercher son nom. Pas son prénom et son nom. Son prénom et son nom n'est qu'un outil pour essayer de savoir vraiment qui on est, être roi et reine en son royaume. Sinon... C'est ça, finalement, que tu es venu faire. Et notre famille, il ne faut pas se confondre avec elle. C'est que, d'une certaine façon, on l'a choisi parce que c'est notre miroir qui va nous faire évoluer. Et ça, je trouve ça super parce qu'à ce moment-là, tu n'as plus le poids de la famille. Si tu veux, tu n'as plus les bagages de la famille. Tu as une chance, une potentialité de pouvoir modifier des choses que tu n'as pas encore compris.
Quand tu dis miroir, ça ne veut pas dire qu'on est comme eux, parce que j'ai beaucoup de gens qui vont dire « Mais moi, je ne me reconnais pas chez mon père, chez ma mère, chez mes frères et sœurs. » Le miroir, ça veut dire qu'ils viennent nous tendre ce qu'il y a au fond de nous.
Oui, mais ça peut être des comportements. Et même si tu as un comportement inverse à celui que tu crois que tu supportes pas, mais il y a le même comportement à l'intérieur de toi.
Donc l'inverse de quelque chose est la même chose.
C'est ça.
La polarité.
C'est une pièce avec pile et face.
Pile et face.
Voilà. Et toi, tu vas essayer de réunir les deux.
Mais moi, je déteste face, Manu. Et moi, je ne veux plus du face. Je déteste le face chez mon père. Je déteste le face chez ma mère. Alors, je fais du pile.
C'est ça. S'il y a des personnes qui détestent une goutte d'alcool, dans leur famille, il y a des alcooliques.
Et donc, il faut essayer de réunir ces polarités.
C'est ça. Et pouvoir trouver la voie du milieu, comme disent
certains. La voie du milieu.
C'est-à-dire l'unité. C'est ça, c'est réunir les deux, tu deviens un. Et au plus, tu vas devenir un. Si on arrive peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, à retrouver la totale unité entre ton inconscient et ton conscient, tu deviens lumière, donc tu n'es plus là.
En acceptant, en pardonnant et en accueillant et surtout en allant rechercher, en prenant conscience si possible de tous les traumas qu'on n'a pas libérés, de tous les conflits psychiques qui sont encore en nous.
Tu sais, de plus en plus, le terme conflit, j'essaie de le transformer en richesse.
Ah, en opportunité.
Voilà.
Ah, okay. Un cadeau.
Voilà.
Ouais, c'est vrai que Michel, tu dis souvent cadeau. La vie nous fait des cadeaux. Alors, les cadeaux, parfois ils sont lourds à porter.
C'est pas qu'ils sont lourds, c'est qu'on les voit comme lourds. Mais en fait, en vrai, regarde, tu rentres chez toi, tu trouves cette situation-là. Mm-hmm. C'est peut-être un cadeau qu'on te fait finalement.
Ouais.
Et si on te deux façons d'observer les choses.
Si tu penses que si tu le vis, je dis bien si tu le vis les choses vraiment profondément.
On va parler polarité, je le sens.
Tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur de toi. On est d'accord. Donc quelque part, si tu à un moment donné on te trompe, la question
en
tu
quoi
dois
ai-je trompé?
Ben voilà.
Ouais, oui.
Toute situation que devant toi, tu dois te la poser. C'est une question que tu dois te poser à toi-même.
Toujours en miroir, toujours en polarité.
C'est ça.
Et en essayant de prendre conscience. Et toi, Manu, fort de ton expérience, ça fait des années que tu vois des milliers de gens, tu voyages énormément, t'es même une star au Brésil, on va pas se mentir.
Pas de star.
Une star dans le sens lumineux, tu mets de la lumière.
J'aime bien éclairer.
Voilà, t'aimes éclairer.
Faut faire attention, faut pas briller.
Faut pas briller,
parce
faut
que
éclairer.
Briller, à ce moment-là, les autres voient plus rien. Éclairer, à ce moment-là, tu restes. Et puis ça te regarde quand même au sol. Là.
C'est très bien dit. Eh bien, souvent, les gens viennent nous consulter lorsque ça va mal, lorsqu'ils ont des douleurs, lorsqu'ils ont des inflammations. Et là, souvent, toi, tu peux leur dire quoi? Parce qu'il y a des lois dans cette biologie.
Oui. En fait, tu peux voir qu'il y a des pathologies qui vont exprimer que tu es dans le problème. Et puis, il y a beaucoup de pathologies qui vont exprimer qu'on sort du problème, que psychiquement, tu vas mieux. C'est ça qui est bizarre.
Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'on est en train de sortir d'un problème, Michel, et que c'est à ce moment-là qu'on a mal.
Il est en train de nous dire que le corps nous envoie, enfin, en tout cas, le cerveau nous envoie une information qu'on n'est pas capable de capter, qu'on n'a pas l'habitude d'analyser de cette façon-là et qu'on voit comme un problème alors que c'est une solution.
Oui, ou tu peux voir simplement que, moi je l'exprime, quand tu es dans un combat et tu peux pas avoir trop de douleur, tu peux pas avoir de symptômes inflammatoires ou infectieux, sinon tu perds ton combat.
Dans le combat, j'ai pas le temps de me réparer.
Ah non, c'est justement quand tu vas libérer le combat que à ce moment-là, toute tes blessures que tu as vécues dans le combat, elles vont devoir être réparées. Et les réparations se font toujours par des inflammations et des infections.
Par le fameux repos du guerrier. C'est quand ça. Je vais enfin en congé, alors que ça fait des mois et des mois que je bosse comme un fou, ou que j'ai eu des gros conflits, qu'enfin ça se résout. C'est là où mon corps se répare par le système inflammatoire vagotonique.
C'est ça, par le système vagotonique.
Et donc les gens, quand ils viennent nous voir pour certaines pathologies, selon des règles bien précises et selon les tissus et les organes touchés, ils vont mal, ils ont mal, mais parce qu'en fait, ils se réparent.
C'est ça.
Et de mettre de la conscience dessus nous aide à quoi alors ? À plus accepter ?
Déjà, accepter peut-être son symptôme, d'abord à le comprendre et à l'accepter, c'est-à-dire accepter qu'on puisse être parfois un peu moins bien et que ce symptôme n'est pas une maladie. Parce que c'est souvent là que tu vas voir le docteur qui va dire que tu es malade.
Alors que non.
Ouais.
Docteur, je suis en train de guérir.
Psychiquement, je vais mieux.
Ah oui.
Mais parfois, tu restes dedans. Alors, ça, c'est un peu.
En balance,
tu viens nourrir.
Ouais.
Donc, souvent, nos patients sont en conflit en balance. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'eux qui veut guérir, qui a une partie de la solution, et une partie d'eux qui n'y arrive pas, qui répète.
C'est ça.
Ok. C'était passionnant. Les amis, c'est déjà fini.
Ah, déjà. On aurait pu rester encore des heures.
On aurait pu rester encore des heures. Et quand c'est bon, nous, on a envie d'y rester. Hein. Ah, Michel.
C'est passionnant, c'est hyper intéressant.
J'ai plus le droit de dire passionnant, Michel.
Mais moi, j'ai le droit, c'est pour ça que je le fais pour toi.
C'était formidable, c'était formidable. Manu, merci infini
merci
d'être
beaucoup,
venu.
Ouais.
C'est moi qui vous remercie.
De nous avoir éclairé, éclairé un petit peu plus. Je vous conseille, pour vous qui êtes curieux, d'aller voir le site internet d'Emmanuel Corbel, la lecture biologique. Vous y trouvez plein d'informations, ses formations, certaines vidéos explicatives. C'est juste, et je le redis une dernière fois, passionnant.
Ah bah, de toute façon, la page Instagram.
Instagram.
Si vous avez un doute, réécoutez juste la présentation de Fouad du début de l'émission, vous comprendrez à quel point il est passionné.
Manu, nous t'aimons.
Manu, et je vous aime aussi, hein, puisque finalement, nous sommes simplement le miroir. Hein.
Exactement. Auditeur, auditrice, nous vous aimons aussi.
Une parole que je pourrais dire pour terminer à Christiane Singer. Je ne sais pas si tu connais Christiane Singer, qui est merveilleuse quand tu l'écoutes, mais elle dit que l'amour est la substance même de la vie.
Alors, soyons vivants.
Voilà.
Et aimons-nous.
Et on vous retrouve très bientôt. À bientôt, les amis.
Prenez soin de vous.
Ouais. Hypnose, sophrologie, shiatsu kinésiologique, microkiné. Michel Efouet répond à vos questions dans votre émission Bien-être et vous.